Donc nous, on vous demande ça, on vous demande de maintenir le poste d'accueil en gare de Brest, parce que ce serait incompréhensible qu'il n'y ait pas d'accueil en gare de Brest, que ce soit pour les personnes handicapées qui viennent. Là, il y a le Tour de France qui va arriver. Les gens vont arriver en gare de Brest, il n'y aura pas d'accueil. C'est inconcevable. Donc voilà, nous on vous demandait un moratoire sur ce projet et le maintien du poste d'accueil jusqu'au départ en retraite de Daniel. Voilà.
Concernant le fait de prendre son temps, je pense que
prenons
pas
le temps,
faire plus que ce que je vous ai déjà donné comme temps, puisque ça fait quand même 2 ans qu'on en parle, donc vous voyez, et le dossier n'est toujours pas déposé. Donc déjà la première annonce que je peux vous faire, c'est qu'au mois de juin, le poste d'accueil sera tenu. Parce que le dossier ne sera pas prêt pour être mis en place en juin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va continuer à travailler sur ce dossier-là. On va avancer et je vous dis que la mise en place se fera. Après, ce que je souhaite, c'est qu'elle se fasse de manière la plus intelligente possible, de manière la plus adaptée possible, et qu'il y ait effectivement une réponse aux besoins de nos clients, une réponse à notre autorité organisatrice, et une réponse aussi aux cheminots qui ont, et ça je vous le redis, et c'est très important, aussi besoin d'une vision d'avenir sur leur métier. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, si on est sur un statu quo, il n'y a pas de vision d'avenir sur la partie TGV, je le redis, sur la partie digitalisation, et donc c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc on va continuer. Pour l'instant, je ne vous annonce pas de date de mise en œuvre, parce que je veux qu'on poursuive les travaux. On n'est pas encore mûr, je suis d'accord avec vous, il y a encore des choses qu'on doit retravailler, il y a des prises en compte qui doivent être faites, et on a commencé à s'en parler ce matin, et on va continuer à travailler. Mais en tout cas, pour ce qui concerne notamment le poste d'accueil actuel, il continue à être maintenu jusqu'à la mise en place du projet, et au-delà de la mise en place du projet, bien évidemment, en fonction de ce qui sera décidé sur les orientations, il y aura toujours une place pour notre agent d'accueil en gare de Brest, y compris si son poste n'existe plus, il y aura toujours des missions à faire, et c'est aussi un travail qu'on fait avec l'accompagnement de notre agent d'accueil pour que effectivement les choses se fassent aussi en fonction de ses desiderata, de ses volontés et de ses choix. Et ça, on le prend évidemment en compte.
Juste quand même, monsieur Aurillac, sur la question de vous cacher derrière TGV, enfin, je veux dire, c'est un peu facile, quoi. Nous, à la CGT, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de séparation par activité. Vous avez dit aux cheminots, l'impact, il n'y aura aucun impact pour vous. On sépare par activité, ça ne va rien changer pour vous. Et aujourd'hui, vous nous dites, TGV décide, donc tous ceux qui sont à TER, ils doivent payer la note. C'est pas juste. Ça, c'est la première chose. Sur la partie économique, depuis 2008, le TER Bretagne est bénéficiaire. Certaines années, c'est même des millions d'euros de bénéfices qui sont faits au niveau du TER Bretagne. Il n'y a pas un centime qui est remis dans les conditions de travail des cheminots. Vous n'arrêtez pas tous les ans de faire des dossiers de réorganisation, de supprimer des postes. Vous nous avez dit avant la signature de la nouvelle convention, il faut faire des efforts une fois qu'on aura signé la convention. Rassurez-vous, on va calmer sur les dossiers de réorganisation. Ça a été signé pour 10 ans. Résultat des courses, on nous dit maintenant il faut tout réorganiser, il faut mettre des équipes mobiles en place, il faut supprimer les guichets, il faut enlever les contrôleurs dans les trains. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera vous, monsieur Aurillac. Hein. Non mais je vous le dis quand même, parce qu'à un moment ça commence à suffire. C'est toujours aux cheminots qui sont sur le terrain de payer la note. Et ça suffit. C'est plus entendable. Donc on vous le redit. Vous retirez votre dossier de réorganisation. Sinon, vous avez le rapport de force. Vous voyez aujourd'hui, il y a du monde qui est là. Tout le monde n'est pas venu. Mais sinon, vous aurez un rapport de force qui va vous contraindre à retirer votre dossier.
C'était juste pour donner des précisions par rapport au... Vous parliez tout à l'heure de Quimper-Brest au niveau de la SCT. Faut pas oublier que Quimper-Brest, avec des ASCT, quand certains trains ont sont accompagnés aujourd'hui, c'est suite à des agressions quand même. Faut quand même remettre les choses à plat quand même, parce que les quatre emplois qui ont été gagnés pour mettre des ASCT sur Quimper-Brest, c'est suite à des agressions en 2019. La création de la résidence de Quimper au niveau ASCT, TER, c'est aussi parce qu'on vous avait prévenu quand vous avez voulu séparer les activités entre TGV et TER pour les ASCT de Quimper et Brest, on vous avait dit que ça va vous coûter 15 emplois. Non, vous verrez, ça se mettra bien en place, il n'y aura pas 15 emplois. Au final, on est arrivé à 13 emplois. Et aujourd'hui, plus que ça, puisqu'il y a les 4 après, malheureusement, sous les agressions, on est arrivé à 17 emplois. Donc, quand vous voulez vous faire les choses, le problème, c'est que ça coûte toujours plus. Et pourquoi la création de la résidence de Quimper en TER? C'est parce qu'en fait, la charge de travail, vous ne pouviez pas l'absorber à Rennes, ni à Vannes. Ça vous aurait coûté encore plus. Donc nous, on n'en voulait pas de la séparation. On était très bien avec notre TER et notre TGV. Nous, on n'a rien demandé. Et maintenant, c'est vous qui l'avez fait. Et vous avez, ça vous a coûté beaucoup plus cher. Et ça va vous coûter à chaque fois plus cher. Mais bon, c'est votre philosophie.
Donc, moi, je vais parler aussi pour Quimper, hein, parce que je vous rappelle que le dossier correspond aux liens territoriaux du Finistère. Donc, nous, on est à Quimper, là, aujourd'hui, on est à Brest pour... Mais nous, on le rappelle, on ne sent pas le projet en deux. Ça, c'est clair, c'est la position des Quimperois, on l'a déjà dit, on l'a redit à monsieur Bordel. Et je vais juste faire une chose, vous venez faire une grosse erreur sur la ligne sud. Le projet de la création des saisonniers à Auré pour les ASCT, les CD... vous avez vu le projet ? Donc j'informe pour ceux qui ne sont pas au courant, les ACT vont faire de l'escale. On leur a mis 4 heures d'escale et on fait faire des allers-retours en train derrière. Donc quand vous nous dites que vous allez maintenir les escales dans les gares, en fait vous avez demandé aux ACT un moment de le faire. Là vous avez passé, vous avez franchi une ligne rouge qui n'est fait surtout pas franchir. Parce que maintenant je peux vous dire, c'est en train de monter petit à petit chez les ACT, ils sont en train de voir que vous êtes en train de les détruire. Vous êtes en train de défaire tous les métiers de commerciaux. Vous venez de faire l'erreur. Bah, je vous en remercie d'ailleurs de l'avoir fait, parce que nous on va pouvoir mobiliser derrière. Et je vous l'annonce, hein, le syndicat de Brest et de Quimper prendront la responsabilité, même cet été s'il le faut. De toute façon, on n'est pas populaire. Mais il y a un moment, il faut qu'on se batte. Vous êtes en train de nous tuer à petit feu, vous ne voulez pas le dire, parce que évidemment c'est le projet national et tout, mais vous êtes en train de nous tuer. Monsieur Farandou nous l'a dit, de toute façon, qu'on est arrivé. Métier unique commercial. C'est son terme. Nous, on ne veut pas du métier technique, on ne veut pas le métier unique. On a des métiers avec nos spécificités, avec nos formations. On veut être bon dans notre métier. On veut pas être des branquignoles qui sont mal formés, sans plus vous ne pouvez plus payer les formations. C'est ça, faut pas l'oublier non plus. On fait des économies sur tout. Maintenant, virez de nos cadres à la défense, virez ceux-là qui ne servent à rien juste pour des gilets. Laissez-nous faire notre travail. Au lieu d'essayer d'avoir notre peau. C'est ça la réalité, monsieur Aurillac, que vous ne voulez jamais le dire. Parce que vous êtes toujours dans des bonnes paroles, des bonnes façons de parler, nous faire tourner en rond. Là, vous nous faites tourner en rond depuis tout à l'heure. Et depuis 2 ans. C'est pour ça que ça avance pas non plus. Vous nous prenez pour des imbéciles, vous croyez qu'on ne sait pas réfléchir. On sait compter, ça fait -3 votre projet. Point. Ça fait -3 même si vous faites, même si on réadditionne ce que vous reversez. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir faire du démarchage en permanence. Une fois que vous l'avez fait, il n'y aura plus. Hein. Ils vont faire quoi les agents? Donc il y a un moment, non. Et comme l'a très bien dit, ça suffit. Et on prendra nos responsabilités si vous ne les prenez pas.
Bonjour. On ne se connaît pas, je suis à la Syntax CGT Spectacle, je m'appelle Olivier. On est solidaires, on a des camarades qui sont là. Et je veux juste vous dire que si on doit bloquer le Tour de France, on sera allié avec eux et on le fera. Parce que nous, c'est aussi ça fait partie de nos métiers. Voilà. Donc voilà. Réagissez dans le bon sens, merci.
Merci camarade. Bon, monsieur Aurillac, vous avez bien saisi à travers tous les témoignages qu'il y a un mal-être, les cheminots, et qu'ils ont bien compris que ce projet, pour eux, ça allait être néfaste, clairement. Donc nous, ce qu'on vous demande, comme je vous l'ai dit, c'est le moratoire, mais il faut que ce soit décidé aujourd'hui. Il faut qu'on ait des propositions aujourd'hui. Sinon, nous, on ne peut pas laisser cette situation continuer à dériver comme ça. Et la CGT, en tout cas, prendra ses responsabilités. Et s'il faut se mobiliser, vous avez un échantillon là aujourd'hui, s'il faut se mobiliser à fond, on se mobilisera à fond. Voilà. Donc la balle est dans votre camp.
Et on ne se mobilisera pas qu'à Brest.
Et voilà, et nous, on ne lâchera rien.
C'est noté, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc non, il n'y aura pas de moratoire, on continue à travailler sur le sujet. Voilà, en tout cas j'ai entendu beaucoup de choses. Je vais revenir vers certaines personnes d'ailleurs notamment. C'est noté et on est sur une position de désaccord. Voilà, je le regrette, je le note. Et je pense qu'il y a encore des choses à travailler pour qu'on puisse arriver sur un terrain d'entente. C'est ma conviction profonde.
Bon, bah, on voit qu'on n'avancera pas plus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? Sinon, vous voyez qu'on a mis en place quand même des choses assez un peu plus joyeuses derrière. Il y a les camarades retraités qui organisent un barbecue Ce barbecue, c'est pas juste pour un moment de convivialité, c'est aussi pour donner la caisse en soutien aux intermittents qui sont mobilisés, pour la réouverture des salles de spectacle et qui sont aussi mobilisés contre la réforme de l'assurance chômage. Et on a pu bénéficier de leur soutien quand on s'est mobilisé contre la mauvaise réforme des retraites. Donc maintenant, on leur envoie l'ascenseur. Voilà. Oh. Donc je ne fais pas plus long, je ne fais pas de long discours et on va laisser place à la fraternité. Merci à tous.
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu as vécu ce dialogue social entre aujourd'hui entre les cheminots et la direction.
D'accord. Bon, bah, alors déjà, moi je m'appelle Yannick Tison, donc je suis le secrétaire général des cheminots CGT de Bretagne, donc représentant la fédération sur les territoires de notre belle région. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu deux temps d'échanges avec la direction. Donc je n'ai pas eu encore le débrief complet de ce qui s'est dit en salle. Mais dans tous les cas, ce qu'on a pu observer, ce que tout le monde a pu observer lors de ce rassemblement, puisque la direction est venue s'exprimer au micro et répondre aux questions qui leur ont été posées. Pour l'instant, la direction de l'entreprise, la SNCF et les représentants restent toujours sur le fait que leur dossier est toujours d'actualité et il doit passer, il doit être mis en application. Alors pas au mois de juin, mais on pourrait comprendre qu'au mois de septembre. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas d'avancée possible. On avait réussi au dernier rassemblement à avoir un petit moratoire jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant on sent qu'on n'est plus dans la phase de moratoire, la direction veut véritablement passer en force, et c'est ce qui nous fâche, et c'est d'ailleurs un peu le contenu de toutes les interventions qui ont été faites lors de ce rassemblement.
Est-ce que tu pourrais nous dire clairement de quoi il s'agit? Parce que quand on entend la direction, j'avoue avoir à moitié rien compris, c'est hyper alambiqué. Et si j'ai bien compris, il y a une histoire de on vous enlève des postes, mais on vous en rajoute, mais au final ça fait moins quand même.
Oui.
C'était un peu confus, c'est sûrement fait exprès.
Mais c'est confus, mais en même temps, c'est comme dans toute entreprise, elle a ses particularités et ses dénominations. Et donc difficile pour tout le monde de pouvoir, si on reste sur des sujets techniques, des appellations techniques, difficile de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit aujourd'hui, l'entreprise a décidé de supprimer d'une façon générale, enfin de supprimer les postes d'une façon générale dans les postes commerciaux, puisqu'elle considère que les postes commerciaux ne sont pas utiles au quotidien. Ils partent d'un principe, le principe de la digitalisation, le principe du monde de l'Internet, de pouvoir acheter ou échanger ses billets par le biais de ce mode opératoire. Ce mode opératoire, il est accessible à beaucoup d'usagers, mais pas tous. Et en même temps, il pose une problématique de pouvoir se faire rembourser son billet, l'échanger pour un autre départ, etc. Et donc, c'est pourquoi la SNCF est fondée à avoir en permanence un service organisé au service du public, c'est d'avoir dans les trains, c'est d'avoir dans les gares une présence à bord pour les renseignements, les informations, et pour vendre les billets et faire le retour sur les échanges, etc. La direction, elle, se cale en disant elle abandonne la présence dans les trains, puisque dans les trains on peut acheter son billet. Elle considère que tout le monde possède Internet. Elle considère que cet accès est l'accès certes majoritaire, mais elle considère que c'est l'unique moyen, enfin le moyen principal de pouvoir circuler. Or, quand on est dans une gare, on peut avoir son billet même en l'ayant acheté sur Internet, mais on a besoin d'informations, on a besoin d'avoir des réponses à des questions sur le déroulement de son voyage ou sur le report de son voyage. Et donc voilà, la direction, elle fait en présentant les choses en disant elle supprime mais elle recrée des postes. Au passage, elle l'en enlève, c'est assez simple à comprendre. Admettons, je schématise, elle ferme 8 guichets et elle remet 6 personnes qui ne vont pas travailler à 100% dans la gare, mais qui vont être réparties, leur charge de travail va être répartie sur un ensemble de gares. Sur un ensemble de gares, voilà, pardon.
Ok, bah...
Est-ce que c'est clair?
Ouais, en gros, si j'ai bien compris, ouais, donc ils suppriment des postes de guichet.
Elle ferme les guichets.
Elle ferme des guichets.
L'entreprise, elle annonce une fermeture de guichet et remplace l'ouverture de guichet, les guichets par une présence en gare.
Ouais.
Et donc, accessoirement, elle pourra utiliser les services qui sont au guichet, mais les guichets, en tant que tels, seront fermés du premier au dernier train. Enfin, ils ne sont pas tout le temps ouverts du premier au dernier train, c'est ce qu'on demande d'ailleurs, mais il n'y aura pas ce service en permanence, et ce service qui est dû au public. C'est la SNCF, il ne faut pas l'oublier, c'est une entreprise de service public.
Ce qui m'a frappé, en fait, dans le discours de la direction, c'est cette espèce de langue néo-managériale. Alors, client, job... la notion de service public qui est complètement évacuée en fait. Est-ce que c'est habituel? Ça fait des années que vous subissez ça, ou en fait finalement...
Alors le langage dans l'entreprise, il a évolué comme partout dans les autres entreprises, mais effectivement d'entendre parler de management, de clients dans la SNCF. À la SNCF, pardon, c'est monté crescendo au fur et à mesure des différentes réformes qui ont impacté l'entreprise et l'organisation de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, elle joue sur deux tableaux en disant elle est là pour rendre un service, mais elle est là pour gagner de l'argent. Et c'est simplement ce rapport où elle n'est plus là à mettre à disposition des trains pour que les usagers, pour que des personnes, des citoyens se déplacent dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leur loisir. Elle considère ses citoyens comme des clients. Et donc, il y a tout un panel qui s'articule autour de ça, des grilles tarifaires, de la promotion, et donc une grande nébuleuse sur le prix des billets qui sont pour certains constants et pour d'autres complètement inconstants. Et c'est-à-dire que deux personnes qui sont dans un train, eh bien, elles ne payent pas le même prix alors qu'elles sont assises l'une à côté de l'autre.
Alors, je vais te demander de te présenter. Donc, toi, tu es un simple usager notamment de la SNCF. Et bah voilà, de te présenter, dire aussi ce que tu as pensé de l'AG, du dialogue entre la direction et les cheminots, pourquoi tu es là, voilà, ce que tu penses en fait d'un peu tout ça et de ce qui s'est dit.
Bonjour, je m'appelle Serge. Je travaille dans un centre d'aide pour le travail et je travaille à Landerneau et je prends tous les deux jours le TER. Et je suis venu pour parce que je devais soutenir la SNCF parce que je trouve inadmissible ce qui se passe depuis. J'ai vu en l'espace de deux ans, beaucoup de changements. Et pas en bien quoi. Et ça me désole de voir tout ça, tout ce changement. Parce que il n'y a plus de contact humain. Quoi. Le contact humain, c'est très important pour les usagers.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont dérangé dans ces changements que ce manque de contact humain, peut-être le remplacement aussi par des machines, mais aussi peut-être dans les horaires, dans les prix, dans les... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont dérangé dans les changements à la SNCF?
Oui, c'est ça, au niveau de les machines déjà.
Ouais.
Les machines, c'est vrai que les prix, ça a beaucoup changé aussi.
C'est plus cher?
C'est plus cher. C'est plus cher aussi, ouais. Ouais. Là, je suis allé l'année dernière, je suis allé à Paris avec mon père, et ça a augmenté beaucoup. Ouais. Ça a augmenté beaucoup. Et c'est vrai, c'est très cher. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est très inquiétant quoi, pour l'avenir. Très inquiétant, je trouve. Je sais pas trop quoi dire d'autre.
Qu'est-ce que tu as pensé du dialogue qu'il y a eu tout à l'heure?
Le dialogue, c'était intéressant d'écouter les cheminots et puis la direction aussi. Et j'ai posé le. J'ai bien écouté. Et ça. Pour la direction, ce que je pense, c'est que. Ça, ils essaient, peut-être qu'ils essayent, mais ils savent. Mais c'est ambigu. C'est ambigu. Parce que il y a. Ça, c'est pour le dialogue avec d'autres personnes sans doute. Il y a des choses qui ne veulent pas passer, quoi. Et autrement, pour les cheminots, c'est normal que ça réagisse comme ça, qu'il a beaucoup de colère. C'est ça. Je sais pas si j'ai été.
Non, ça va. Ça va du coup, qu'est-ce que je voulais te demander, ouais. Est-ce que comme moi. Enfin moi j'ai trouvé pas très clair en fait ce que disait la direction quoi. Enfin, est-ce que tu as senti, moi j'ai l'impression d'avoir senti ça, une volonté d'embrouiller les choses, on a envie de leur demander juste combien de postes en moins. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? C'était clair.
Non, ça n'a pas été clair.
Surtout pour quelqu'un venant de l'extérieur.
Ça n'a pas été clair non. C'est vrai que je suis resté sur ça aussi, que. Combien de postes peuvent être supprimés, par exemple, ouais.
Oui, voilà.
Combien qui vont être gardés. Et la dame, là, par exemple, Daniel, c'est ça, que j'avais entendu. Pourquoi, au bout de 16 ans, qu'elle n'est plus utile, oui. Pourquoi, brusquement, c'est ça qui beaucoup, il y a beaucoup de changements dans... dans le travail avec toutes ces choses-là, souvent. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille jusqu'à là-bas pendant 16 ans de carrière, et on lui dit on va te faire partir. Comme ça. On ne sait même pas si c'est bien réfléchi. Voilà. C'est lamentable, ça.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce mouvement prenne une dimension peut-être nationale. Que ça fasse un effet boule de neige et qu'on reste tous ensemble associés, sans différence, et que le lien soit maintenu tous ensemble dans un combat continu.
Tous ensemble.
Ouais, ouais. Bon, je passe la parole.
Oui, je partage complètement ce que vous dites. Et est-ce que Ariane... toi, c'est comment ?
JC
et Ariane. Et toi ?
Cyril.
Comment tu trouves que tes conditions de travail se sont dégradées ?
Au niveau des conditions de travail, c'est beaucoup de demandes de clients et de moins en moins de personnel pour leur répondre, avec des demandes qui se sont diversifiées, parce qu'il faut savoir que sur la Bretagne, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, effet Covid ou région verte, hein, comme on veut. Mais c'est vrai qu'on n'arrive plus forcément à répondre à la demande des usagers et qu'on a besoin de ce personnel en gare et notamment maintenir ce lien social avec les plus fragiles.
JC, hein. Tu fais quoi, toi, précisément, ton métier de cheminot ?
Alors moi, je suis conducteur de train. Ouais. Allez, mécanos et pipip ! Ouais, il n'y a que des conducteurs de train à la SNCF apparemment. Il y a des bandes. Oui, il y a des conductrices de train. Il y avait la présence d'une conductrice tout à l'heure, mais elle a dû partir. Mais oui, il y a une camarade conductrice. Elle est au boulot. Oui, elle est au boulot d'ailleurs en ce moment. Et oui, les conditions de travail, comment elles se dégradent, c'est la solitude. C'est la solitude. Avant, on était accompagné d'un contrôleur, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais on était accompagné d'un contrôleur. Et, on avait du lien, enfin, on pouvait échanger, on pouvait discuter. Maintenant, on se déplace d'une gare à l'autre, on croise personne. Dans les gares, c'est pareil, elles sont de plus en plus déshumanisées, donc on ne rencontre plus d'autres camarades cheminots. Et donc voilà comment se dégradent nos conditions de travail, en tout cas pour les conducteurs.
Donc en fait, si je comprends bien, de ton point de vue de vendeuse et de ton point de vue de conducteur, notre vie se déshumanise. On a moins le temps au contact. Et ça me fait penser à ce qui se passe pour les EHPAD. Ils en parlaient sur les ondes ce matin. Hein? Toi aussi, tu le ressens? Parce que
moi, je suis éducatrice paix et en fait, avec des femmes victimes de maltraitance, on n'a aucun financement. On nous demande beaucoup, mais il n'y a rien qui se passe. Et ça commence à bien faire. Il n'y a aucun effectif. Et je suis de tout cœur avec vous, en fait.
D'accord. Avec les... Du coup, c'est ce que tu disais, Ariane. Il faut que toutes les luttes convergent. Ce que tu dis aussi, j'y sais. Et dans les EHPAD, pareil, les gens, les personnes âgées n'ont pas eu leur mot à dire pour être isolées, ont vu leur droit de sortie supprimé. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut exprimer quelque chose par rapport à la déshumanisation de ce qu'on vit en ce moment? Ou alors on passe à un petit spectacle, c'est ça? Manu.
Bonjour à tous. Je suis à ESH. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est accompagnant d'enfants en situation de handicap. On a fait plusieurs mobilisations pour dénoncer le fait qu'on soit payé sous le seuil de pauvreté, qu'on ait l'interdiction de faire des heures supplémentaires et le fait qu'on n'ait aucune formation. Donc le 8 juin, on sera encore en grève pour dénoncer le fait qu'on soit payé sous le seuil de pauvreté, le fait qu'on n'ait aucune formation et le fait que, en fait, comme on travaille bien, malgré qu'on n'ait pas de formation, ils veulent nous mutualiser. C'est-à-dire que d'habitude, on a un enfant à charge et là, ils veulent nous mettre 4 enfants à charge, un peu comme ils font avec les soignants, où un soignant doit avoir 12 ou 16 patients et ils veulent faire la même chose. Donc nous, on sera en grève le 8 juin pour dénoncer le fait que Blanquer, il est rendu 600 millions depuis qu'il est ministre et qu'il ne nous a toujours pas formés, qu'il nous paye en dessous le seuil de pauvreté. Et le fait qu'on soit aussi en CDD pendant 6 ans, c'est-à-dire que pendant 6 ans, on doit faire des courbettes à nos chefs, malgré nos conditions de travail. Et si au bout de 6 ans, ben, on est un peu, pas hors système, mais on dénonce, et ben, on peut être viré, quoi. Beaucoup de collègues ont été titularisés, ils étaient à 100%, et avec leur titularisation, ils sont passés à 70%, donc ils sont payés moins de 1000 euros par mois. Donc vous imaginez bien qu'avec moins de 1000 euros par mois, on ne fait que survivre. Donc voilà, donc je vous attends le 8 juin à venir nous défendre aussi, parce que nous sommes les sous-merdes de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on nous sous-estime, alors que pour ces enfants-là, c'est une chance pour eux, c'est-à-dire qu'avant, ces enfants-là, ils étaient dans des instituts, dans des IME et tout ça, et maintenant, ces enfants-là, ils sont à l'école, ils peuvent avoir l'école comme tout le monde, et c'est une chance pour eux, et nous, on espère que ça va se professionnaliser, on veut des formations, on veut être formés pour pouvoir répondre mieux à ces enfants qui ont besoin de soutien, ils ont besoin d'outils pédagogiques pour travailler. Donc on a des enfants qui sont en fauteuil, on a des enfants qui sont dyslexiques, on a des enfants malvoyants, malentendants, enfin bref, on a plein d'handicaps, mais avec aucune formation. Donc voilà, nous on demande des formations, d'être payés à 1,5 du SMIG, et le fait qu'on ait le droit de faire des heures supplémentaires, qu'on soit remplacés, voilà. Donc vive la fonction publique.